Nous sommes, depuis 3 semaines, nous sommes dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Si vous ne connaissez pas où se trouve ce livre, c'est juste avant Matthieu, le Nouveau Testament. C'est un petit livre de 4 chapitres seulement et 55 versets. Donc si vous voulez, si vous ne connaissez pas ce livre, on peut lire dans quelques minutes, peut-être 15 minutes ou 20 minutes, on peut lire ce livre. Mais parfois, on néglige certains livres parce que ce n'est pas connu. Soit si on n'a pas, parfois on n'a pas écouté une prédication sur certains passages ou certains livres, on néglige. Mais toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est sans utilité. C'est pour nous. Dieu l'a écrit, toutes ces pages de mots d'amour pour nous corriger, pour nous instruire, n'est-ce pas? L'ambiance de ce livre est assez sombre. Mais pour voir, il faut d'abord lire, je crois, même si on a lu ce passage la semaine dernière. Nous allons lire Malachie. Malachie, chapitre 1. La semaine dernière, nous avons vu le premier 5 versets. Nous allons prendre à partir de verset 6 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à verset 14. Malachie 1, je vais lire à partir de verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. N'est-ce pas triste quand on lit ce passage? Donc l'ambiance de ce livre est assez sombre quand on voit l'état de cette nation, de ce peuple. Les enfants de Dieu, c'est Dieu même qu'on se considère comme ses enfants. Je suis le Père. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Verset 6. Les enfants de Dieu sont devenus rebelles, arrogants, corrompus, hypocrites et pécheurs. C'est ça la scène actuelle, là, quand on lit ce premier chapitre. Les prêtres même étaient corrompus et pratiquaient la méchanceté, l'image d'un aveugle conduisant d'autres aveugles. Leur adoration était devenue fausse et ne représente que de vides rituels. Leur offrande était une abomination. Ils se mariaient avec les païens et divorçaient leurs femmes. Ils sont complètement oubliés et devenus indifférents à la loi morale et cérémoniale de Dieu. Lorsque nous regardons à la beauté de Dieu, nous sommes alors encouragés, car cela nous donne de l'espoir. Le livre commence avec cette phrase. Si vous regardez le deuxième verset de ce chapitre, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » On a vu en détail la semaine dernière avec le frère Timothée Bixby. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » On peut considérer le livre de Malachie comme une déclaration d'amour. Dieu déclarant son amour à son peuple. Ce peuple même qui a dédaigné leur Dieu. Il est même pathétique de voir que Dieu devrait répéter plusieurs fois à ses enfants qu'il les aime. Je l'ai tiré avec les liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Osée 11, 3 et 4. Et encore à Osée 11, 8 à 9. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. On peut imaginer les contrastes entre ces deux passages. Dieu d'amour en train de parler avec son peuple qui est rebelle, qui sont en train de rebeller contre lui. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, dit Isaïe 43, 4. Oui, Dieu voit son peuple, son enfant, d'un grand prix. Il nous voit à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, Dieu voit un misérable pécheur comme moi avec un prix. Incroyable, n'est-ce pas? Mais souvent, c'est ici que commence le problème. Dans notre relation privilégiée avec notre Dieu d'amour, nous gagnons petit à petit un faux sentiment de sécurité. On oublie que Dieu reste Dieu, même s'il penche à notre niveau. Dieu est amour et il nous aime. Ce n'est pas faux. Mais nous devrions autant nous souvenir des autres attributs de Dieu. La Bible parle tout autant de la colère de Dieu, car il est juste. Dieu est jaloux car il aime son enfant. Il est plein de grâce et de miséricorde, mais il ne laissera pas les pécheurs impunis. Nous ne pouvons pas créer notre propre Dieu comme les enfants d'Israël l'ont fait. Fabriquer des OGM, organismes génétiquement modifiés, vous savez, on enlève certains attributs d'une tomate, on y ajoute plus de sucre, peut-être plus de couleur, pour en faire un fruit selon notre préférence. Mais voilà où est le problème. C'est qu'après ces modifications, ce n'est plus une tomate. On a changé la tomate. C'est ainsi qu'on fait avec Dieu. On essaie d'enlever les choses qu'on n'aime pas, ou on a peur. On fabrique un Dieu de notre préférence. Oui, c'est vrai, au début, quand nous étions pécheurs, nous étions attirés par l'amour de Dieu. Mais une fois que nous sommes devenus ses enfants, nous devrions aimer Dieu avec tous ses attributs. Par exemple, nous devrions aimer la justice de Dieu. Dieu, il est juste en toutes choses. Même s'il me punit, il reste juste. L'amour de Dieu pour Israël a précédé son existence, n'est-ce pas? Il a aimé son peuple en ce qu'il a élu souverainement et généreusement pour être sa propre possession. Ceci fut clairement révélé à l'époque où Dieu donna son alliance. L'amour fut le cœur de cette relation d'alliance. En reconnaissant l'amour de Dieu pour lui, Israël aurait dû répondre en l'aimant et en obéissant à ses commandements. Maintenant, nous allons prendre notre passage de Malachie 1, verset 6, qui dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Dans le livre de Malachie, il parle de sacrificateurs qui devraient tenir la parole de Dieu pour prêcher, pour enseigner au peuple d'Israël. Mais ici, si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés les sacrificateurs de Dieu. Nous offrons le sacrifice à Dieu, nos louanges. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Et souvent, nous voyons dans ce passage, Éternel des armées. J'ai vu dans les autres, une autre traduction qui dit que Éternel de toutes choses. Éternel des armées, c'est éternel de toutes choses. Il est l'origine de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Dans le verset 1 à 5, dans ce chapitre, on a vu le premier oracle qui se termine avec une affirmation concernant la grandeur de Dieu en Israël et au-delà. Le deuxième oracle est un contraste frappant. Le deuxième oracle, c'est le verset 6 à 14. C'est un contraste frappant. Il abordait l'échec d'Israël à honorer Dieu. Le peuple d'Israël a échoué à honorer son Dieu. Pardon. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 5. Israël a négligé d'obéir au commandement de Dieu. Pardon. Dieu se lance dans une sorte d'argument avec son peuple. C'est l'honneur de Dieu lui-même qui est en question. N'est-il pas ironique que le Dieu de gloire de tout l'univers vient ici sur la terre? Merci. N'est-il pas ironique que Dieu de gloire de tout l'univers vient ici sur la terre pour que l'homme l'honore? Le Dieu saint, adoré par les milliers d'anges dans les cieux, descend sur la terre pour être aimé et adoré. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il se souvienne de lui? C'est le premier de 10 commandements donnés à l'homme. Je parle de 10 commandements. Par rapport à son devoir envers ses semblables. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Même si Dieu est considéré comme un père, il est considéré comme le père de toute l'humanité, car il en est le créateur. Israël a réjoui d'une religion, réjoui d'une relation privilégiée avec Dieu. En Jérémie 31:9, nous lisons, ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Je suis un père pour Israël. C'est le c'est le Seigneur qui dit. Encore en Exode 4, 22, Dieu dit à Moïse, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. » En Psaume 103, 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre père, qui dès l'éternité t'appelle notre sauveur. » On trouve en Isaïe 63, 13. Un fils honore son père. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est Dieu? C'est Dieu qui pose la question. Tu m'appelles père, mais pourquoi tu m'honores pas? Tu me donnes pas l'honneur qui est Dieu? Même humainement parlant, la relation entre un père et son fils est une relation d'amour. Le fils doit normalement honorer son père. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dit Jésus. Bien sûr, la relation entre un père et son enfant ne reste pas uniquement sur la profession. Juste parce qu'un enfant, il appelle père, papa, ce n'est pas toute la relation. Pouvez-vous imaginer un enfant qui dit qu'il est l'enfant de tel père, mais ne lui obéit jamais et fait tout ce qui déshonore et ne glorifie pas son père? Non, ça ne marche pas. Et pourtant, mes bien-aimés, nous nous conduisons ainsi. Nous confessons être les enfants de Dieu. Nous devrions sonder nos cœurs ce matin. Si nous voulons rendre gloire et honneur à notre Père Céleste dans notre vie sur la terre. Souvent, nous accusons les circonstances de notre vie. Une fleur, même quand elle est écrasée, amène le parfum. L'or mis dans la fournaise ardente brille plus que jamais. Le diamant, ciselé de tous les côtés, reflète plus de lumière. Mais nous, les enfants de Dieu, que l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs ce matin. Un serviteur honore son maître. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Un serviteur honore son maître. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Une autre analogie pour que nous comprenions où nous avons failli, où nous avons échoué. Un serviteur est obligé d'honorer son maître. Honorer, ce n'est sûrement pas dire que je suis le serviteur de tel maître. Autrement dit, ce n'est pas la confession par la bouche. Cela ne suffit pas de dire que nous sommes des chrétiens. Le Seigneur nous a rachetés de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes des esclaves de Christ, notre Sauveur. Le mot serviteur et l'esclave, c'est le même. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Le mot crainte, comme le frère Christian il a bien souligné, peut aussi être traduit par respect. La crainte de Dieu ne signifie pas être terrifié par lui. Les peuples qui adorent les idoles et les autres dieux païens ont souvent peur de leur Dieu. Vous avez peut-être remarqué. On a peur de Dieu, qu'il va nous punir, qu'il va nous châtier. Je ne crains pas mes parents parce qu'ils vont me punir. Quand je dis que je crains mes parents, je ne veux rien faire qui peut les attrister. C'est une relation d'amour. Je ne peux pas me permettre de faire quelque chose qui peut les attrister. C'est dans toutes les relations, si on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ici, j'aimerais bien arrêter un peu pour le nom de Dieu, parce que la question ici, c'est le nom de Dieu est déshonoré. est méprisé. C'est quoi le nom de Dieu? Le verset 11 dans le passage, Malachie 1, verset 11, le Seigneur dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Quand Moïse demanda le nom de Dieu, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Dieu est éternel, n'est-ce pas? Il n'a pas de nom. Dieu, il ne peut pas avoir le nom. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible. En Exode 20, quand on lit les 10 commandements de Dieu, le verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut. Pardon. Dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux, dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Exode 20, 3 à 5. Si nous allons regarder attentivement ces versets, nous pourrons comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu a parlé assez dans les 10 commandements qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Dans les cieux, il y a un seul vrai Dieu. Il n'est pas besoin d'être connu sous un nom. Et c'est pourquoi Dieu répondit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Seulement Dieu peut dire ainsi, n'est-ce pas? Car il est unique dans sa personnalité. Il n'y a pas d'autre semblable à lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre personne qui est semblable à lui. Nous, les humains, nous avons besoin d'un nom pour être identifié. Mais finalement, qu'est-ce que ça sert à un nom? On a besoin d'être identifié. Car dans nos attributs, nous ressemblons aux autres. Mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Il est unique dans sa personne, dans tout le temps et dans tous les lieux. Dieu reste Dieu, même s'il est sur la terre, même s'il est dans le ciel, dans tout le temps. Hier, aujourd'hui, ou pour toujours, Dieu reste Dieu. On ne peut pas trouver un semblable à Dieu. Dieu, il est unique dans sa personne, dans tout le temps et dans tous les lieux, sur la terre et dans les cieux. Quand le Fils de Dieu est venu sur cette terre sous la forme d'un esclave, il avait besoin d'un nom comme tout le monde. Ils ont donné le nom de Jésus. Le seul vrai Dieu est connu sur la terre par ceux qui professent son nom. Dieu, il est connu par un nom, par ceux qui professent d'avoir connu ce Dieu. Il est souvent connu comme le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et ensuite, vous pouvez mettre votre nom si vous croyez en lui. Et il sera connu dans le monde comme Dieu de tel. Imaginez, on dit Dieu de Jean-Pierre, Dieu de... Vous pouvez mettre votre nom. Et Dieu sera connu sur cette terre avec, en associant le nom de son enfant. Dieu qui habite dans la lumière est entouré de gloire. Il est glorieux. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. Le 4e commandement dit clairement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 20, 7. Remarquez qu'il n'y a pas de mention de le nom de Dieu ici. Le commandement dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, mais on ne sait pas c'est quoi le nom de Dieu. C'est Dieu. Nous pouvons seulement comprendre que par nos conduites dans ce monde, nous pouvons honorer ou déshonorer le nom de Dieu. Et non en criant haut et fort le nom de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Regardez comment le nom de Dieu a été honoré dans les nations. Je vais lire de Daniel 6, versets 25 à 27. Un roi païen qui parle ainsi. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'un roi païen peut faire une déclaration ainsi sur le Dieu, sur Dieu? Le nom de Dieu a été honoré dans le pays d'Égypte à cause de Joseph. L'Égyptien ne connaissait pas le nom de Dieu, mais le nom de Dieu a été honoré en Égypte à cause de Joseph. Et un autre exemple. David déshonora le nom de Dieu quand il a commis le péché avec Bathsheba. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu commet un péché, il déshonore le saint nom de Dieu. Chaque fois qu'on commet un péché, on déshonore. On ne glorifie pas le nom de Dieu. On déshonore le saint nom de Dieu. Et ne sommes-nous pas appelés à marcher d'une manière digne de l'évangile que nous prêchons, que nous professons? Dieu ne partage pas sa gloire avec des autres, il glorifiera son saint nom. Quand Jésus-Christ descendit sur cette terre, Philippiens, dans l'épître de Philippiens, Paul dit, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, même si les hommes ils vont mépriser, déshonorer le nom de Dieu, mais à la fin, Dieu il a son dernier mot. Il a le dernier mot. Qu'un jour, ça va passer ainsi. Je sais que Steve le disait, de bon gré ou mal gré, tout homme va glorifier le nom de Dieu. Et dans le passage, on voit le sacrifice indigne. Comment le peuple, ils sont sacrifiés, comment le sacrificateur, ils sont sacrifiés à un si grand Dieu. La référence de l'Éternel à des aliments impurs aurait dû être suffisante pour amener le prêtre à la repentance. Quand Dieu a parlé, ça suffit. Il avait des instructions spécifiques sur ce qui constituait des sacrifices défectueux. Si vous voulez voir, vous pouvez aller voir chez vous, dans le livre de Lévitique, le chapitre 22, il parle élaborément de versets 17 à 30. Comment il faut sacrifier? Quel type d'animaux il faut sacrifier? Il était prévenu contre l'offrande de tel sacrifice, de peur que le prêtre profane et souille ainsi le nom de Dieu. Cependant, les prêtres étaient précisément coupables de ce péché en offrant des aliments impurs. Souvenez-vous de l'offrande de Caïn qui fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre et celle d'Abel, son frère. Il amenait des offrandes, le fruit de la terre. Et quand on voit le sacrifice d'Abel, c'était le premier-né de son troupeau. Et nous, qu'est-ce que nous amenons comme sacrifice à notre Dieu? Aujourd'hui, nous ne sacrifions pas comme ils sont sacrifiés dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'on amène pour offrir à notre Dieu? Le dimanche matin, quand on vient, comment nous venons dans la présence du Seigneur? Même en parlant dans le plan humain, quand nous offrons quelque chose, nous offrons pas ce que nous voudrions pas recevoir nous-mêmes. On ne donne pas ce qu'on refuse dans notre vie. Un sacrifice devrait nous coûter. Si on offre quelque chose à Dieu, si vous voulez offrir quelque chose à Dieu, ça devrait nous coûter. Qu'est-ce que ça nous a coûté ce matin? Certainement, ce n'est pas facile pour tout le monde pour venir ici. Ce n'est pas facile pour venir le mardi soir. Ce n'est pas facile pour venir un jour où l'Église organise une réunion de prière ou des autres réunions. Si ça vous coûte quelque chose, je pense qu'il faut faire. Il faut le faire. Un sacrifice devrait nous coûter. Quand le roi David voulait sacrifier à Dieu, c'est après l'arche qui était amenée, il dit dans 1 Chronique 21-24, « Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Oui, parfois ça peut nous faire très mal pour offrir quelque chose à Dieu, surtout notre temps. Aujourd'hui, on peut donner beaucoup de choses. C'est facile à détacher. Mais on est tous esclaves de temps aujourd'hui. On a mal à décrocher de notre temps. On ne veut pas donner notre temps à Dieu. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Peut-être ça peut nous coûter notre sieste d'après-midi. Ça peut nous coûter une grasse matinée. Ça peut nous coûter le sommeil, la fatigue. Il faut payer le prix pour démontrer notre amour pour notre Dieu. Il faut absolument payer un prix pour démontrer. Si vous voulez démontrer votre amour pour Dieu, il faut absolument payer le prix. Qu'est-ce que nous offrons à notre Dieu? Sommes-nous conscients de ce que l'on donne à notre Dieu? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on donne? Ou sommes-nous comme les enfants d'Israël qui donnaient n'importe quoi? Même les choses interdites, ils ont donné n'importe quoi. Il était complètement inconscient. Il torque. Quand le Seigneur il parle, il dit, mais de quoi? Tu parles de quoi, Seigneur? Comme s'il ne savait pas. Oui, il ne savait pas. Sommes-nous conscients de ce qu'on donne à notre Dieu? Ou sommes-nous comme des prêtres en Israël, étourdis, inconscients de leurs péchés, en train de retorquer à Dieu, de quoi parles-tu, Seigneur? De quoi parles-tu, Seigneur? C'est le moment pour réfléchir comme nous offrons à Dieu. notre temps, notre argent, notre vie? Est-ce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes? C'est à chacun de penser. Est-ce que nous sommes en train de donner à Dieu le meilleur que nous avons dans nos mains? Dieu demanda à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il n'avait rien d'autre que le bâton. Il s'est trouvé dans le désert, en train de paître le brebis. Il n'avait rien d'autre. Il a dit que j'ai le bâton. Il a dit, jette-la. C'est le bâton qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu, il est capable de servir de ce que vous pouvez laisser pour lui. La question, c'est qu'est-ce que nous avons dans nos mains? Est-ce que nous sommes en train de donner notre meilleur, le meilleur de nous-mêmes? Ananias et Sapphira ont vendu le champ et donnant une partie du prix du champ. Ils ont vendu le champ et donnant une partie du prix du champ. Il a été puni. Vous savez pourquoi il a été puni, Ananias et Sapphira? Pas parce qu'ils ont donné peu ou une partie. Il était puni parce qu'il jouait l'hypocrite. Il faisait comme tous les gens, il faisait à l'église. Il l'a amené. Chacun, dans le commencement de l'église primitive, chacun il a vendu ce qu'il avait, il mettait en commun. Donc Ananias et Sapphira, ils voulaient jouer le même jeu comme tout le monde. Il vendait ce qu'il avait, il amenait une partie. Peut-être nous avons cet esprit d'Ananias et Sapphira en nous, parfois. On peut facilement tomber dans ce piège de jouer le jeu. Jouer le jeu de la religion chrétienne. Il était puni pour leur hypocrisie, par la mort instantanée. Si Dieu ne nous punit pas aujourd'hui, pas parce que Dieu l'a changé, il est le même Dieu, mais il nous donne la grâce. Il nous donne la grâce. Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, il avait quatre fils, Nadab et Abihu, et encore le commencement de l'église, le tabernacle, l'adoration du peuple d'Israël dans le livre de Nombres, Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, étaient tués instantanément car ils avaient sacrifié le feu étranger. Est-ce qu'il y a des feux étrangers dans notre sacrifice? Est-ce qu'on amène ce qu'on a trouvé sur le chemin, ce qu'on a ramassé dans la vie, on amène, on jette à Dieu? La veuve qui a mis les deux pièces d'argent qu'elle avait a donné 100%. Elle n'avait que deux pièces d'argent, mais ce qu'elle avait donné, mathématiquement parlant, c'est 100%. Mais l'autre, qu'une fraction de ce qu'il possédait. Il possédait énormément, mais ce qu'il a donné, c'est une fraction de ce qu'il avait possédé. Abraham a été prêt à sacrifier son fils unique, Isaac. Il n'avait que Isaac, son fils à lui-même, le fils de la promesse. Mais quand Dieu l'a demandé, il demanda à Abraham, il a sacrifié. Le sacrifice était déjà fait, pas physiquement. Dans le cœur, Abraham, il a déjà donné son fils. Il avait déjà sacrifié son fils. Vous vous souvenez d'Anne, dans le moment de Samuel? Anne avait rendu à Dieu son seul fils que Dieu l'a donné après des années d'attente. Elle était stérile. Elle attendait un enfant depuis des années. Mais quand Dieu l'a donné un fils, elle a rendu le fils à Dieu. Tous ces gens, ils ont donné leur meilleur de ce qu'ils avaient à Dieu. Dieu voit l'attitude de nos cœurs quand on offre à Dieu. Il voit l'attitude de nos cœurs quand on offre à Dieu. Quand nous offrons nos sacrifices à Dieu, nous devrions nous souvenir que Dieu est notre seul Père, notre seul Maître et notre seul Roi qui nous gouverne. Mais nous n'aurons pas un autre Maître. Dieu est notre Maître. Dieu est le seul Roi. Et Dieu, il est le seul Père que nous avons. Nos sacrifices perdent leur sens quand notre cœur est loin de Dieu. On ne peut pas être loin de Dieu et offrir quelque chose. Vous voyez, mais vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même à quelqu'un que vous ne connaissez pas. à peine vous connaissez. Pour quelqu'un, vous n'avez rien. Vous n'avez pas l'amour pour la personne, mais vous dites que voilà, je donne, j'offre le meilleur que j'ai. Non, il n'y a pas de sens. Quand on n'aime plus le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, on ne peut pas offrir Dieu. On ne peut pas offrir nos sacrifices à Dieu. Ce matin, nous avons offert notre sacrifice de louange, de notre adoration. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme? En conclusion, c'est vraiment triste de voir que Dieu lui-même devrait parler, argumenter avec des hommes qui ne sont rien du tout, qui sont comme des vers devant lui. Mais vous n'allez pas parler avec un fourmi, n'est-ce pas? À un autre niveau, on n'est pas mieux que le fourmi. Mais à un autre niveau, on ne peut pas aller parler avec un fourmi. Si vous allez écraser un fourmi, vous n'allez pas dire pardon. Mais ici, Dieu, il descend à un autre niveau. Il parle, il argumente avec les hommes qui sont rien du tout. Ils sont comme les vers. C'est triste de voir que Dieu exige que nous devions lui donner l'honneur et gloire qui lui appartiennent déjà. Dieu, il est déjà honoré, il est déjà glorifié. Mais il nous demande de l'honorer et glorifier. Ça veut dire que nous manquons de faire notre devoir. On a cessé de glorifier Dieu. On ne glorifie pas Dieu comme il faut. C'est triste de voir que Dieu descend sur terre pour parler à l'homme et pour dire que lui seul est son père, son maître et son roi, et qu'il n'y a personne d'autre qui est digne de recevoir son adoration et gloire. Il n'y a personne d'autre qui peut recevoir notre adoration et nos louanges. Il est vraiment triste de voir les hommes, même pas, qui ne sont même pas conscients de leur état pitoyable. L'homme charnel, il comprend pas tout ça. C'est pitoyable dans une étoile. Il est triste de voir les hommes, même pas conscients de leur état pitoyable, plongés dans leur rituel absurde. Si vous avez pensé, ah, je vais aller à l'église ce matin, qu'est-ce que vous allez faire? On va chanter, on va prier, on va faire la lecture, après on va écouter une prédication, après on va rentrer. Et chaque semaine, ça passe comme ça. Si c'est que ça, on a tombé dans un rituel absurde. Il n'y a pas d'autre chose. Ça va vous rien faire dans votre vie. Ça va vous rien apporter. Il est triste de voir comment l'homme perdu peut répondre au Dieu tout-puissant dans sa folie extrême. Ici, dans le premier chapitre de Malachie, les hommes, ils osent répondre à Dieu. De quoi tu parles? Il est aussi triste de voir que Dieu nous demande même de fermer les temples où Dieu n'est plus adoré. Si Dieu n'est pas adoré dans ce lieu, véritablement, je pense que Dieu il dit que c'est mieux de fermer ces temples où mon nom ce n'est pas glorifié, où je ne suis pas adoré véritablement. C'est le verset 10. Dieu nous demande même de fermer les temples où Dieu n'est plus adoré. C'est le cas de beaucoup des églises qui professent d'être des églises chrétiennes, qui n'adorent pas, qui n'amènent pas la gloire à Dieu, qui élève les hommes seulement, où Dieu n'est pas vraiment adoré. Il est triste de voir l'homme qui dit quelle fatigue, qu'il dédaigne Dieu, son créateur. C'est fatigant. Aller à l'église, c'est fatigant. Écouter la prédication pendant 45 minutes ou une heure, c'est fatigant. On est tous fatigués. C'est fatigant. Ça, c'était le problème de ce peuple. Dans Malachie, c'était le problème du peuple. Il était fatigué de servir l'Éternel. Ils voulaient autre chose. Comme le peuple était fatigué de manger le man jour après jour, c'est la parole de Dieu. Mais on est fatigué, on est fatigué. Et il est aussi triste d'entendre Dieu dire, « Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Imaginez ce que Dieu dit. « Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Que ce soit loin de nous que Dieu nous dit ça. Dit cela à nous. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dit le Seigneur, si vous dites vous êtes chrétien, d'accord. Mais comment vous êtes pour votre Dieu? Ni froid, ni chaud? On peut tous dire qu'on est des chrétiens. Mais en quel état vous êtes? Ni froid, ni chaud. Il faut savoir que Dieu haït la tiédeur spirituelle. On ne peut pas permettre de vivre dans la tiédeur pour Dieu. On ne peut pas permettre de vivre ainsi. Si on ne grandit pas, mais je suis chrétien depuis 30 ans, je suis aujourd'hui comme j'étais il y a 30 ans, il y a un gros problème, n'est-ce pas? Celui qui ne pousse pas, ça commence à périr. Ça commence à... Un arbre qui arrête de pousser, et naturellement, il y a une putréfaction, il commence à mourir. Le jour où on s'arrête à pousser, à grandir, ça veut dire qu'on est en train de mourir. C'est triste, mais c'est encourageant de voir que Dieu nous aime. Le chapitre commence ainsi, « Je vous aime ». Dieu nous aime, il ne nous laisse pas faire ce qu'on a envie de faire. Dieu ne nous laisse pas faire ce que nous avons envie de faire. C'est pourquoi la parole de Dieu est là aujourd'hui. Comme tous les jours. Il ne nous laisse pas faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est encourageant de savoir que Dieu est plein d'amour et de grâce. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Quel soulagement! C'est encourageant de savoir que nous avons un souverain sacrificateur auprès du Père pour plaider notre cause. Dieu use sa patience envers nous. Et c'est lui qui nous a tant aimés quand nous étions encore pécheurs. Oui, le peuple, ils sont ainsi, mais la seule raison que Dieu il vient plaidoyer avec le peuple, avec son peuple. Il vient argumenter avec son peuple. Il tient en conversation avec son peuple, puisqu'il ne va pas laisser tomber son peuple. Heureusement pour nous, la Bible se termine par le dernier livre de l'Ancien Testament, à ce chapitre. La Bible ne se termine pas dans le premier chapitre de Malachie. Dieu a la bonne nouvelle pour nous. Jésus-Christ a déjà vaincu la mort et le péché. Regardez dans la dernière page de votre Bible. La bataille est déjà gagnée et Jésus-Christ est victorieux. Je lis le livre d'Apocalypse. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Voilà la parole d'encouragement. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, nous sommes devant ta sainte parole en tremblant. Nous reconnaissons notre état. Seigneur, tu nous as rachetés en payant un grand prix. Le salut était gratuit, offert gratuitement pour nous. Mais nous savons que tu as payé un grand prix. Seigneur, nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous et même ce que tu fais pour nous même maintenant. Seigneur, lave-nous de nos péchés par ton sang précieux. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos mains, puisqu'on peut offrir ce que tu mérites et tu es digne. Sanctifie nos lèvres, Seigneur, puisqu'on peut dire et chanter ta louange, chanter ta gloire tous les jours de notre existence sur cette terre. Seigneur, aide-nous à confesser le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Confesser le nom de Dieu qui a tant fait pour nous et manifester ta gloire par notre marche avec toi. Seigneur, bénis ton Église. Nous te remercions pour ton œuvre parmi nous. Seigneur, tu nous reprends. Ça nous donne beaucoup de consolation. Tu ne nous abandonnes pas. Et tu es notre Père, tu es notre Maître, tu es notre seul Dieu. Et nous sommes tes enfants. Aide-nous à rester fidèles à toi, quoi que soient les circonstances de notre vie. Dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a tant aimés, que nous prions tout cela. Amen.